RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h10, c'était RMC, c'est le week-end des experts et on attaque notre deuxième partie. Je vous rappelle que tout à l'heure, à partir de 8h, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau qui me rejoint, notre expert auto qui répondra à toutes vos questions. Et puis on évoquera les constructeurs chinois. Faut-il avoir peur de ces constructeurs chinois à l'occasion du salon automobile de Shanghai qui se déroule jusqu'au 29 avril? C'est vrai que ça fait depuis plusieurs années qu'on imagine que les Chinois vont arriver sur le marché automobile européen. C'est pas forcément le cas. Que se passe-t-il? Vont-ils justement proposer peut-être des nouveautés, des modèles dans les mois et les années qui viennent? On fera le point avec des constructeurs et puis des journalistes spécialisés. Jean-Luc, bien sûr, ce sera à partir de 9h. Mais dans l'immédiat, donc, les animaux avec notre vétérinaire Laetitia. Et on va s'intéresser aux animaux préhistoriques.
Eh oui, à l'occasion de l'ouverture de la réplique exacte de la grotte Chauvet en Ardèche, qui est ouverte depuis hier. C'est l'événement culturel du week-end. Et nous sommes avec Carole Fritz, qui est archéologue et responsable du Centre de recherche et d'études sur l'art. Carole, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, tout le monde peut désormais découvrir ces extraordinaires fresques, hein, qui sont la plupart animal, unique au monde. Il faut quand même dire aussi que la grotte est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces fresques datent du paléolithique supérieur, si je ne me suis pas trompée. Il y a environ 30 000 ans. J'ai révisé l'homme de Cro-Magnon, attention. Hein. Alors, racontez-nous d'abord comment la grotte Chauvet a été découverte il y a maintenant 20 ans.
Eh ben, c'est un hasard recherché puisque ce sont trois spéléologues, Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel et Christian Heller, qui faisaient de la spéléologie en Ardèche depuis très très longtemps. Et ben, ils ont découvert un trou souffleur, ils sont rentrés, ils sont arrivés par le toit de la cavité. Donc après, ils ont descendu 10 mètres pour atteindre le sol. Et ils ont exploré la cavité et en explorant, ils ont découvert les peintures.
Ils se sont pas dit, tiens, quelqu'un est passé récemment et a fait des graffitis?
Non, justement, non, parce que ça, c'est... En fait, une grotte ornée paléolithique, quand on la découvre, avec ce type de peinture, cette fraîcheur, cette qualité graphique, ça pouvait pas être un faux.
Ah oui? Parce que, franchement, quand on voit les dessins des animaux, ça ressemble beaucoup, vous savez, aux bandes dessinées, ou même aux dessins qu'on peut voir, qui sont modernes, hein, qu'on voit aujourd'hui.
Mais parce que l'art paléolithique, en fait, en très peu de temps, dès moins 36 000 ans, Homo sapiens, en fait, a déjà, entre guillemets, tout inventé. C'est-à-dire qu'on a, face à nous, des créations... comme vous l'avez dit, qui peuvent être très contemporaines, qui sont très fortes culturellement, propres à cette culture de l'Aurignacien, mais quelque part, l'homme préhistorique avait la perspective,
le
mis
mouvement.
En place l'animation, le tracé très ferme, très souple, une qualité graphique exceptionnelle.
Alors, est-ce que l'homme, l'Homo sapiens, vivait dans la grotte ou c'était sa galerie de peinture, on va dire?
Alors, sa galerie de peinture, non. Vivait dans la grotte, oui et non. C'est compliqué en tant qu'archéologue, puisque on a, dans la grotte Chauvet, on
parce
en a.
Parce qu'on
pas...
dit l'homme des cavernes, c'est
oui,
pour ça.
Oui, voilà, mais ça, c'est une image qu'il faut aussi un peu abandonner. Dans la grotte Chauvet, on n'a pas fait de fouilles, donc on n'a pas de données précises sur leur installation en dehors des dessins. Dans d'autres grottes, on a dans certaines grottes des traces d'installation temporaire qui est liée à la pratique du dessin. C'est-à-dire que certains membres du groupe venaient s'installer dans la grotte, faisaient les dessins, mais en même temps, ils y mangeaient, ils y taillaient du silex. Mmh. Et cette installation était de courte durée.
D'accord. Donc, ce n'était pas les appartements de l'homme Cro-Magnon.
Ce n'était pas les appartements de l'homme de Cro-Magnon. Peut-être que si un jour on fouille, ce qui ne se passera jamais pour des problèmes de conservation, sous le porche de la grotte, on trouvera un site d'habitat. Mais ça ne se fera jamais pour préserver cette grotte qui est extraordinaire.
Alors, il y a plus de 430 figurations animales sur ces murs hein, qui sont représentés. Quels animaux ont été représentés?
Alors, des animaux d'un climat particulier. Si nous, on vit aujourd'hui sur un réchauffement climatique, eux vivaient dans une période glaciaire. Mmh. Donc, on va trouver des rhinocéros laineux, des mammouths laineux.
Ça ressemble à quoi, un rhinocéros laineux?
Oui, parce que...
Un rhinocéros laineux, bon, pour être très caricatural, en gros, c'est un rhinocéros un peu plus haut, avec des poils comme un mammouth, en réalité, voilà.
D'accord.
Des rennes. On va trouver aussi également le grand mégacéros, qui a disparu, des ours des cavernes, des lions des cavernes, des animaux, en fait, qui vont représenter leur environnement, l'environnement froid dans lequel ils vivaient.
Alors, ça veut dire qu'en France, il y avait des rhinocéros, des lions.
Incroyable.
Eh oui. Oui, tout à fait. C'était une faune particulière liée à l'environnement et au climat dans lequel vivaient ces populations à cette époque-là. Et plus on va remonter dans le paléolithique supérieur, le climat va reprendre un petit peu de chaleur, si je puis dire. Et vers la fin du paléolithique supérieur, aux alentours de moins 17 000, moins 16 000, les animaux vont un peu changer. On n'aura plus de mammouths, par exemple, dans nos contrées. On n'aura plus de rhinocéros laineux. On verra plus de bisons, de chevaux, de rennes, etc.
Qui sont aussi représentés dans cette grotte.
Qui sont également représentés dans cette grotte.
L'ours aussi est très, très présent dans la grotte Chauvet.
Oui, l'ours des cavernes. Alors, l'ours des cavernes, c'est un animal assez grand, hein, qui est aussi grand qu'un ours polaire une fois dressé sur ses pattes arrière. Donc, ça peut atteindre les 2,50 m.
Oui, ça n'a rien à voir avec notre ours brun des Pyrénées.
Ça n'a rien à voir du tout. C'est un animal qui a disparu. On le trouve également dans la grotte, puisque c'est un ours qui hibernait l'hiver. Et donc, on trouve des bauges, c'est-à-dire des creux dans le sol. Il se faisait un peu son lit, si vous voulez. Et il y a des individus qui sont morts sur place. Donc, on a énormément d'ossements, énormément de bauges. On a même des empreintes au sol. Des empreintes d'ours. Donc, on voit même... Donc, ils circulaient dans la grotte en longeant les parois pour se guider, parce qu'eux n'avaient pas la lumière. Et on voit des empreintes, certainement, d'une femelle avec un petit qui longe cette paroi et qui avance et qui circule.
Alors, quelle signification peut-on donner à ces peintures animales? Pourquoi cette envie de représenter tous ces animaux?
Alors, il faut savoir que l'art pariétal paléolithique est ce qu'on pourrait appeler, nous, aujourd'hui, une religion. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des animaux, des dessins accumulés sur une paroi parce qu'on a envie de faire des dessins.
C'était presque de la... C'est pas de la mythologie, mais c'était...
C'est certainement... Alors, là aussi, hein, on n'a pas les textes qui vont avec, hein, mais certainement, ce sont des mythes que l'on nous raconte. Les images animales portent, en fait, des histoires humaines. C'est-à-dire que l'homme du paléolithique projetait ses mythologies au travers de ses images animales. Alors certainement, pour ces populations de chasseurs-cueilleurs, les mythes, et pour les populations subactuelles aussi, on sait très bien que les mythes servent à organiser la vie des groupes, à gérer cette vie des groupes. Et on pense que pour le paléolithique, ces images pariétales se rapportent à ce type de pratique.
Alors, c'était des chasseurs-cueilleurs, mais est-ce qu'ils chassaient tous les animaux qui étaient représentés, est-ce que plutôt ils les vénéraient?
Alors, là aussi, c'est un peu compliqué, parce que généralement, quand on a des animaux sur les parois, ça ne correspond pas au reste alimentaire que l'on trouve, quand on en trouve. C'est-à-dire qu'il y a un choix dans le bestiaire qui est représenté sur les parois. On ne trouve pas principalement les animaux qu'ils mangeaient. Donc, on a ce choix qui renvoie donc à ces pratiques mythologiques, c'est-à-dire que le paléolithique ne va pas chasser le mammouth ou ne va pas particulièrement aller chasser le lion des cavernes. Par contre, ils se servent de ces animaux symboliques forts pour projeter leur mythe et pour se projeter eux-mêmes.
D'accord. Alors, c'est plutôt des animaux qu'ils vénéraient ou qu'ils craignaient?
Craignaient, c'est sûr qu'un ours, un lion des cavernes, on fait très attention, mais ils avaient certainement moins de crainte que nous vis-à-vis de la nature, puisque la nature, c'était leur source première de vie. Vénéraient, oui, certainement, c'est-à-dire qu'il y avait certainement des mythes autour de ces animaux qui les plaçaient dans une position particulière.
Carole Fritz, vous restez avec nous, il est pratiquement 7h20. Laetitia, on poursuit avec cette histoire passionnante dans un instant. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre au 3216 ou bien animaux@rmc.fr. On visite donc cette grotte préhistorique de Chauvet ce matin. À tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Voilà, 7h21, c'est RMC, et c'est le week-end des experts, et à l'occasion donc de l'ouverture ce week-end en Ardèche de cette caverne du Pont d'Arc, qui est la réplique exacte de la grotte préhistorique de Chauvet. Nous en parlons avec Carole Fritz, qui est archéologue et qui est avec nous au téléphone. Carole, on se posait la question avec Laetitia pendant la petite pause. Est-ce que aussi toutes ces fresques, tous ces dessins dans les grottes, c'était pas aussi pour agrémenter le quotidien de ces habitants, pour avoir quelque chose de joli à regarder?
Alors,
nous en déco, ou est-ce que on pensait pas ça à l'époque?
Ah, je pense qu'on pensait pas ça à l'époque, parce que on peut avoir cette impression-là avec la grotte Chauvet.
Et mais ça, on a l'impression vraiment d'une galerie d'art, mais d'art, c'est un musée, quoi.
Oui, oui, c'est ça qui fait le site est exceptionnel. C'est-à-dire que dans la grotte Chauvet, on est face à ce qu'on pourrait appeler un coup de génie, quoi. C'est-à-dire que quelque part, pas pour tous les panneaux, mais pour au moins les grands panneaux représentés, le panneau des chevaux, le panneau des lions, le panneau final. Pour moi, c'est comme si je regardais une peinture de Michel-Ange ou de Léonard.
C'est vrai.
C'est ça. Sauf que, l'art paléolithique n'a pas toute cette qualité-là. On pense à, bien sûr, à Lascaux, on pense à Niaud, mais il y a d'autres grottes où les dessinateurs ou les dessinatrices étaient un peu moins doués que ceux-là, quoi. Donc, le plaisir des yeux, forcément, si dans un groupe paléolithique, on a un bon dessinateur ou une bonne dessinatrice, on va plutôt utiliser les personnes qui ont un don. Ça, j'ai du mal à en douter.
Oui.
Mais après,
c'était pas pour de l'ornement, pour décorer cette grotte.
Un besoin, comme je disais tout à l'heure, ces images rassemblent certainement des mythes propres à ces groupes qui expliquent leur vie, leur survie, le pourquoi de leur installation sur la Terre, ou des choses comme ça, comme on peut le voir dans d'autres civilisations aujourd'hui quasi disparues.
Ça pouvait peut-être aussi avoir un sens pédagogique pour les plus jeunes, non ?
À l'initiation, oui, certainement. C'est-à-dire que ces mythes servent aussi à initier les plus jeunes. Alors après, j'ai du mal à aller plus loin dans l'interprétation, là, parce que...
On n'y était pas, ça c'est sûr.
Et il y a aussi certains dessins qui sont mi-hommes, mi-animaux. Et c'était comment vous l'interprétez ?
Alors, c'est tout l'ambiguïté de la représentation humaine au paléolithique, c'est-à-dire que c'est un art rupestre où sur la totalité, entre moins 40 000 et moins 10 000, en gros, il y a 4% du bestiaire qui représente des humains, c'est-à-dire très peu. C'est-à-dire que l'image humaine est peu représentée, et quand elle est représentée, elle n'est pas naturaliste. Donc on a mixité entre le corps animal et le corps humain. C'est comme le bassin de femme à Chauvet, il n'y a que le bassin de la femme associé à un félin et à un bison, mais ils ne font pas partie du bassin de la femme, ils sont très proches mais ils n'en font pas partie. Et par exemple en Allemagne, à la même époque, ils créent des statuettes en ivoire, il y a une grande statuette de lion, c'est-à-dire c'est un corps humain avec une tête de lion des cavernes.
On ne se représentait pas.
C'est marrant parce qu'on retrouve ça dans la mythologie égyptienne.
On est loin du selfie.
On est loin du selfie et... pour un peu complexifier les choses, on est là, c'est propre à un manque de projection le dessinateur ou la culture se projette sur cette paroi mais ne projette pas sa propre image. Et c'est ça qui est difficile à comprendre, et nous archéologues on interprète ça d'un côté psychologique. Est-ce qu'il y a un interdit sur la représentation humaine? Peut-être, mais peut-être pas, et peut-être que pour les mythes, il est plus probant de projeter des images animales que sa propre image.
Alors, on représente toujours l'homme de Cro-Magnon avec, on a l'image du mammouth. Est-ce que, quelle relation avait l'homme de Cro-Magnon avec ce pachyderme ? Parce que c'est vrai que le mammouth, ça nous... Enfin,
ouais, c'est un animal mythique pour ça, nous.
Voilà. Déjà, pour nous, c'est mythique. Est-ce que pour lui aussi, est-ce qu'ils avaient vraiment des relations
particulières? Je sais pas. On peut dire surtout que le mammouth, dans certaines régions d'Europe, notamment en Europe centrale, ils ont utilisé les os de mammouth pour les faire des structures de cabanes. Mmh. Donc ça déjà c'est très important, c'est-à-dire qu'on construit ce qu'on pourrait peut-être appeler les tout premiers villages, parce que quand vous avez une tente avec une structure en os de mammouth, c'est pas du tout transportable, un os de mammouth, donc c'est du semi-sédentaire. Le mammouth peut servir à ça, pas de nos contrées, donc en Europe centrale, et il récupère des ivoires fossiles pour faire des statuettes. Après, on n'a pas de gestes plus prenants avec le mammouth. C'est-à-dire qu'il est dans le paysage à une certaine époque.
Oui.
Il va en disparaître. Il va porter ses images. Ce mammouth va être dessiné sur les parois. À l'heure actuelle, on n'a pas de traces réelles de chasse au mammouth, par exemple.
Alors,
c'est un pachyderme énorme. Hein.
Juste une dernière réflexion. Il n'y a pas de canidés dessinés, de chiens, de loups? Alors pas de chien parce que c'est pas encore l'époque, mais au moins de loup ou...
À Chauvet, non. On a deux ou trois grottes où il y a des images, où il y a des dessins très frustes de loup, mais c'est pas un animal très porteur. Par contre, il est présent dans la grotte, le loup, à l'état sauvage, puisque près du port Gentré, on a énormément de traces d'empreintes de loup. Donc en fait, la grotte a servi à un moment donné de nurserie. Pour une meute ou plusieurs. Voilà.
Merci beaucoup, Carlo Fritz, pour toutes ces précisions. C'est passionnant, hein, ce sujet.
Voilà.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Donc, je vous encourage à aller en Ardèche et visiter là-bas cette réplique de la grotte Chauvet.
Un gageon que ça va être sans doute l'une des attractions de cet été. Hein,
ah ça, oui, hein. Et ça vient d'ouvrir. Alors, peut-être pas ce week-end, n'y allez pas ce week-end. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde.
Ouais, voilà.
Attendez un petit peu, mais ça vaut vraiment le déplacement. Pour les enfants aussi, c'est une vraie visite familiale.
Ouais.
Et des animaux ont été reconstitués, dont les mammouths, justement.
Complètement. Et puis justement pour évoquer ça, c'est un vrai, enfin un travail de reconstitution, de reconstruction, oui, qui est incroyable parce qu'on retrouve en fait la grotte à l'identique. Et c'est
avec
énormément
l'ambiance,
de travail,
etc. Mmh. Et puis vous avez une salle aussi où les animaux préhistoriques sont reconstitués, grandeur nature.
Laetitia, on revient dans un instant, bientôt 7h30. On va poursuivre sur ces sujets avec bien évidemment vos questions, vos témoignages au 3216 animaux@rmc.fr, météo info, et on est de retour, à tout de suite. Laetitia, attention, attention, il est temps de retrouver notre question flash en moins de 2 minutes maintenant. La tia-tia. Vous vous engagez à répondre à la question suivante, c'est la question de Nicolas que nous avons reçue sur la page Facebook de Vos Animaux sur RMC. Et au passage, vous cliquez sur...
J'aime.
C'est bien. Les croquettes pour chats stérilisés ou live peuvent-elles faire plus grossir que des croquettes normales, Laetitia? J'ai une petite chatte de 3 ans qui est nourrie depuis son adoption à la SPA avec des croquettes light. Elle a toujours été bien portante, mais depuis quelques mois, je trouve qu'elle a grossi, alors que je lui donne la même quantité de croquettes qu'avant.
Alors là, si le light faisait grossir, mais il peut faire grossir le light. Et oui, light, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, par définition, c'est un aliment qui contient 20% de calories en moins.
En moins.
Mais par rapport à l'aliment normal de la même gamme, de la même marque.
Ah oui.
Alors déjà, si l'aliment... entre guillemets normal et très énergétique, s'il y a beaucoup beaucoup d'énergie dedans, hein, beaucoup de gras, etc. Bon, vous enlevez 20%, ça fait un aliment entre guillemets light qui est quand même, qui contient beaucoup d'énergie. Et puis si vous en donnez 20% de plus de cet aliment,
ça revient au même. Bien sûr.
Hein, par exemple, alors 20% c'est par exemple 50 grammes par jour, c'est à peu près la quantité qu'on donne à un chat. Si vous en donnez 60, c'est pas beaucoup, hein. Et ben vous êtes voilà,
20%.
En 20% plus, donc voilà. Du coup, bah vous,
ouais,
vous avez
ça
sert à rien. Et puis petite question Nicolas, est-ce que votre chat ne va pas chez le voisin? Parce que souvent on me dit "Oh mais il mange que les 50 grammes de croquettes et
grossit." Bien sûr, ouais.
Bah voilà. Donc voilà, allez voir quand même votre vétérinaire. S'il a beaucoup grossi, c'est pas normal. Peut-être qu'il va falloir lui changer d'aliment, mais pour un aliment dit diététique, hypocalorique, qui contient beaucoup de fibres et qui beaucoup de protéines et qui rassasie votre chat. Et puis allez demander à votre voisin s'il nourrit pas votre chat, quoi.
32-16 hein, pour toutes vos questions animaux sur RMC.
RMC, c'est au 32-16, 34 centimes la minute plus coût éventuel selon opérateur, et au 7-32-16, 65 centimes par envoi plus prix du SMS. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
8h-25, c'est RMC. Bon dimanche à vous toutes et à vous tous et merci de nous suivre. Bon réveil aussi si vous venez peut-être de nous rejoindre. Sachez que jusqu'à 8h, c'est votre rendez-vous animaux et ensuite on enchaînera avec l'automobile et Jean-Luc Moreau qui m'accompagne comme chaque dimanche 8-10. Laetitia, dans quelques instants, nous allons parler de Wanted qui est un chien de combat qui a été maltraité et sauvé cette semaine grâce aux réseaux sociaux.
Oui, on a justement l'association qui va venir en studio nous expliquer un petit peu l'histoire de cette histoire incroyable de ce sauvetage de chiens et on prendra aussi des nouvelles de Wanty.
Voilà, ça sera dans quelques instants. Mais auparavant, eh bien, on va poursuivre sur ces animaux préhistoriques. Il y a quelques minutes, on vous faisait découvrir donc, eh bien, cette grotte de la caverne du Pont d'Arc, hein, avec cette réplique exacte qui a ouvert ses portes ce week-end. Et là, maintenant, on va parler du bison d'Europe et du cheval sauvage.
Voilà. Et nous allons à la réserve des Monts d'Azur, c'est au nord de Grasse, dans le sud, dans les Alpes-Maritimes, à Torrent. Et nous avons avec nous le docteur Patrice Longour qui a créé cette réserve. Patrice, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors,
bonjour tout le monde.
Vous êtes vétérinaire et il y a 10 ans, vous avez eu comme projet de réintroduire un animal préhistorique qui avait complètement disparu de nos contrées, le bison d'Europe. Alors, vous étiez alors persuadé qu'il avait encore sa place dans notre pays. Mais pourquoi ?
En fait, ce qui se produit, c'est que j'avais fait le constat avec un certain nombre d'autres naturalistes que dans les écosystèmes européens, il n'y avait plus grands animaux. Et contrairement, par exemple, aux écosystèmes africains où on avait des buffles, des éléphants, etc., en Europe avait quasiment disparu le bison.
Oui,
c'est le dernier grand mammifère européen qui n'était plus présent que dans quelques forêts polonaises. Et je pense qu'il manquait beaucoup à nos espaces naturels. On a voulu mener l'expérience, mais tant qu'à faire, on a voulu le mener et réunir pour la première fois notre animal mythique qui était avec lui et qui représentait sur la grotte Chauvet, justement, le cheval de Przewalski.
Ah oui, parce qu'on voit beaucoup hein, sur la grotte Chauvet, on vient de parler de cette grotte, sur ces fresques, des chevaux...
Des chevaux sauvages.
Des chevaux sauvages, qui ressemblent au cheval de Przewalski. Alors, décrivez-nous un petit peu ce cheval.
Alors, écoutez, comme les derniers chevaux sauvages, ça se réduit à 4, hein, c'est les 3 zèbres qui existent encore en Afrique, et ce petit cheval de Przewalski qui est découvert à la fin du 19e siècle dans le désert de Gobi, donc c'est un cheval de petite taille, inutilisable pour nous de nos jours, puisqu'il fait 1m20, 1m40 au garrot.
Oui.
Il a une crinière bien droite, comme le zèbre, à poils mélangés, blond et brun. Quelques zébrures, mais sur les pattes uniquement, quelques rayures sur les pattes. Et puis, c'est un petit cheval. Mais alors, à ma grande surprise, comme vous le disiez, je suis vétérinaire, extrêmement rustique. En fait, beaucoup plus rustique et beaucoup plus résistant que le bison.
Ah oui ?
Sur les études qu'on a menées depuis 10 ans, oui, c'est un...
Et très sauvage, hein, c'est vraiment pas un animal qu'on a pu apprivoiser.
Oui, alors c'est un cheval qui est mythique parce que il a sans doute été justement à l'époque de la grotte Chauvet, à d'autres époques, un peu plus tardivement, domestiqué, capturé par les hommes pour être à l'origine d'une partie de nos chevaux domestiques. Mais les chevaux qu'on connaît de nos jours sont ceux qui ont persisté dans le désert Gobi. Alors là, c'est un milieu sauvage et un milieu très difficile. Et de là, il a été transplanté en réseau et dans réseau de nouveau dans les réserves. Alors, chez nous, en tout cas, c'est un cheval effectivement sauvage. Alors, il réacquiert les attitudes des chevaux sauvages et comportements. Mais au départ, il a un comportement qui est un peu particulier, effectivement. Hein. C'est-à-dire qu'il est un peu déraisonnable quand on le sort des eaux. Et après, progressivement, il se rééduque. Et en tout cas, chez nous, il est traité comme un animal sauvage. Et dans toutes les réserves où on le réintroduit maintenant, oui.
Alors, dans votre réserve, les animaux, les bisons, le cheval de Przewalski, sont complètement autonomes. Votre but, enfin, avec cette réserve, c'est de démontrer que l'animal sauvage est une ressource pour... vraiment une ressource indispensable pour les espaces naturels. Concrètement, ça veut dire quoi ?
Ben, concrètement, ça veut dire qu'il y a en France comme en Europe, un peu partout, des territoires qui se libèrent parce que ils ne sont plus mécanisables par l'agriculture, ils ont été appauvris, on est face à des terres qui sont plus vraiment exploitables. Donc, il y a une espèce de réensauvagement de certains espaces qui se font. Et la meilleure façon d'entretenir les espaces naturels, alors je sais que ça va créer une polémique, mais, en tout cas, c'est ce qu'on a démontré, c'est la meilleure façon d'entretenir un espace naturel, c'est d'y mettre ou d'y maintenir des animaux sauvages. Et ce qu'on appelle la guilde herbivore, c'est-à-dire le mélange des espèces. C'est-à-dire que chez nous, on va du chevreuil, du plus petit ruminant, jusqu'au plus grand, comme le bison qui fait une tonne. Et c'est l'ensemble de ces animaux vivant ensemble dans un espace naturel qui recrée une dynamique des espèces végétales. C'est-à-dire qu'en fait, les écosystèmes sont appauvris. Ils s'appauvrissent quand on y fait passer que des moutons, et ils s'enrichissent quand on fait passer des animaux sauvages. Pourquoi? Simplement parce que les animaux sauvages ont un comportement alimentaire très différent de celui des animaux domestiques, et qu'en gros, ils consomment, ils accèdent à tout ce que leur proposent les territoires naturels, alors que les animaux domestiques font une sorte de tri, et ne consomment que ce qui est bon, refusant ce qui est, entre guillemets, moins bon.
Eh bien, merci beaucoup, Patrice Longourt, pour toutes ces précisions. Merci.
Alors, si vous voulez visiter en famille cette réserve, alors c'est comme un safari, hein. Vous pouvez y aller en calèche, vous pouvez y aller à pied, mais bien sûr accompagné, pour aller au plus près, en tout cas dans l'intimité de ces bisons et ces chevaux de Przewalski et d'autres animaux qui sont sur cette réserve, qui sont au nord de Grasse.
Voilà. Il y a même un site web pour vous, www.autorinc.com. Voilà, qu'on rajoutera sur la page Facebook de vos animaux sur RMC.
Merci Patrice, bon dimanche.
Laetitia, on va découvrir Wanted dans un instant.
Oui.
Voilà. Wanted, c'est un chien de combat qui a été maltraité, qui a été sauvé cette semaine grâce aux réseaux sociaux. On va en parler avec notre invité Philippe Toutenel qui est avec nous en studio. 7h42, c'est RMC, c'est le week-end des experts. Vous êtes au cœur de ce rendez-vous animaux. On revient dans une minute. A tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Pratiquement 8h moins le quart, c'est RMC, le week-end des experts. Avant de retrouver la météo, les infos de 8h et l'automobile avec Jean-Luc Moreau, qui sera là jusqu'à 10h. Eh bien, on poursuit avec notre rendez-vous animaux. Laetitia Barlerin à mes côtés. Et Laetitia, on va revenir sur l'actu de cette semaine. Et on va découvrir l'histoire de Wanted.
Wanted, qui est un chien qui a été sauvé grâce aux réseaux sociaux et à l'intervention d'une association qui s'appelle l'association Chiapa. Et nous avons avec nous Philippe Toutenel, qui est fondateur de cette association. Philippe, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour.
Alors, racontez-nous cette histoire, l'histoire de Wanted. C'est chien de combat, c'est ça?
Oui, présumé, il aurait été utilisé, on va dire, pour appâter les autres, je pense, parce qu'il n'a pas le caractère ni le comportement du chien de combat.
Il n'est pas agressif.
Non, du tout. C'est un amour sur pattes, comme je dis. Donc, voilà, je pense qu'il était utilisé pour entraîner les chiens de combat, ou qu'il a été volé et puis utilisé. Enfin, ils l'ont essayé au combat, ils ont vu que c'était pas le caractère pour. Donc, ils l'ont laissé tout casser dans un camion dans Paris.
Une personne qui s'appelle Morgane, hein, c'est
voilà,
ça?
Voilà, c'est un petit couple, Tess et Morgane. Un petit couple très très bien qui l'ont découvert.
Dans une camionnette.
Voilà, pas loin de chez eux. Et qui ont fait des pieds et des mains pendant des heures et des heures pour faire bouger la police, les associations, etc. Personne n'a voulu bouger.
Et parce qu'ils l'entendaient, c'est ça?
Bah, ils l'ont vu déjà.
Ils l'ont vu, d'accord.
Ils l'ont vu à travers la vitre. Ouais. Voilà. Ils ont vu ce chien qui avait l'air pas bien, il n'avait rien à manger ni à boire, c'est ça?
Voilà, bah déjà avec les balafres qu'il avait sur la tête, déjà c'était visible au premier.
Donc il était amoché.
Au premier regard, voilà. Mm-hmm.
Et donc ils ont appelé la police qui n'est pas intervenue, c'est ça?
Voilà, personne n'est intervenu. Bon, après, on dénigre souvent la police dans ces cas-là, mais à savoir que la police n'est pas forcément formée pour intervenir sur ce genre de cas. Voilà, donc c'est un fait.
C'est pas plutôt les pompiers là qu'il faut appeler dans ce cas précis?
Non,
c'est la police.
Oui,
voilà.
Parce
que là il faut ouvrir une voiture, enfin un véhicule, etc.
C'est une propriété, donc on peut pas.
Donc automatiquement il faut l'aval du procureur. pour pouvoir ouvrir le véhicule.
Ouais, d'accord.
Donc. Alors, dans ce cas, alors ce couple dont n'arrive pas à faire sortir ce chien, bien sûr, et donc ils mettent des photos sur Facebook, c'est ça?
Voilà, sur le groupe Wanted, que je connaissais pas d'ailleurs.
Et qui est un groupe
Sur Facebook, Wanted Bon Plan. Et
c'est pour les bons plans.
Voilà.
Alors, c'est un groupe.
Donc ils ont eu des tas de numéros, d'associations, etc. Et notamment après la mienne. Mm-hmm. Donc j'avais reçu l'appel aux alentours de 23h. Et du coup on a intervenu juste après. On a fait sortir le chien vers 1h30 du matin.
Et vous avez réussi à convaincre la police?
Ah oui, oui, oui.
Parce que je crois que la police a quand même reçu des coups de fil. Enfin, c'est devenu quelque chose, ça a pris vraiment beaucoup d'ampleur.
Oui, oui, déjà,
grâce
ce soir-là, oui.
À cette mobilisation qu'il y a eu sur Facebook, où même ce jeune couple a été très étonné de la réaction des internautes.
Ah oui, oui, oui. Bah là, il y a eu toute une chaîne derrière de solidarité. Ça continue même encore aujourd'hui.
Oui.
Et comme quoi, rien n'est perdu. Hein.
Non, mais ça montre quand même que les réseaux sociaux... alors déjà, sur les réseaux sociaux, on peut déjà passer une annonce si on a perdu son chien ou son chat, et très vite, l'information passe. Mais là, en plus, très vite, il y a eu ce mouvement pour pouvoir sauver ce chien qui était enfermé dans cette camionnette.
Ouais, ouais.
Donc vous avez réussi, à l'aide de la police, de récupérer ce chien. Dans quel état était-il et dans quel état est-il aujourd'hui?
Alors déjà aujourd'hui il va beaucoup mieux. Alors déjà on va commencer quand on l'a trouvé. Alors bon, le résultat n'était pas bon. Hein. Il avait le fémur en miettes, de multiples fractures. Il avait des hématomes énormes sur le crâne, donc des signes de coups. Hein.
C'est incroyable.
Ah bah là oui, casé. Hein.
Non mais on a retrouvé son propriétaire.
Alors l'enquête est en cours. Après, vous comprendrez que je peux pas divulguer. Bien je peux sûr. Rien divulguer sans
on
enquête.
On a déjà la camionnette. Enfin.
Voilà. Donc il y a une enquête en cours.
Oui, on peut retrouver facilement, évidemment, le propriétaire de la camionnette.
Voilà.
Et on peut imaginer que voilà, c'est lui l'auteur de
suites.
Tout ça. Qu'il y aura des suites, ouais.
Voilà. Il faut assumer ses actes au bout d'un moment, quand même. Hein. Donc alors aujourd'hui il va beaucoup mieux. À savoir qu'il était amputé
de la patte arrière.
Voilà. Il se remet très très bien, les fractures aussi, il a plus les hématomes sur le crâne, il a une joie de vivre et une force de vivre aussi, c'est un exemple.
Il a l'air jeune en plus.
Il est estimé à peu près 2-3 ans, voilà.
Et il est où là en ce moment? Est-ce que vous cherchez une famille d'accueil,
là,
hein, c'est ça?
Il est encore en clinique.
Oui.
Et donc il est sortant dès demain.
Oui. Et vous avez trouvé une famille d'accueil?
Oui, alors déjà, dans un premier temps, il va venir à la maison, déjà. Voilà. Déjà, il va venir à la maison. C'est le premier gros sauvetage de l'association. Après, bien qu'il y en ait eu d'autres, mais qui n'ont pas été médiatisés comme ça, on va dire. Mm-hmm.
Ah oui, parce que c'est passé dans Le Parisien, dans d'autres journaux. Ça a fait un relais incroyable sur Internet.
Oui, ça m'a surpris, oui.
Hein, c'est vrai qu'il a une bouille, on craque, quoi. On se dit, le pauvre, il a des balafres partout.
Merci beaucoup Philippe.
Merci beaucoup.
Belle histoire donc.
Merci.
Concernant Wanted. Et c'est vrai qu'on se rend compte à Laetitia que les réseaux sociaux aujourd'hui, alors ça c'est un exemple typique, mais il y a d'autres animaux qui ont été sauvés grâce aux réseaux sociaux. Ne serait-ce que le fait de perdre un animal de compagnie aujourd'hui, le signaler sur Twitter, sur Facebook, etc., ça augmente les chances de le retrouver.
C'est sûr.
Rien que pour ça, bravo aux réseaux sociaux. Merci beaucoup.
Bravo à votre association, donc l'association
Chiapa.
Voilà. Hein, on mettra le lien sur la page Facebook. Hein, vous n'avez pas de
voilà. C'est ça. Non, pas encore, c'est en construction.
Comme ça, on pourra avoir des nouvelles de Wanted et puis aussi des nouvelles des autres cas, parce que vous, bien sûr, vous sauvez d'autres animaux.
Tous les jours.
Tous les jours.
Voilà, tous les jours.
C'est pas un cas isolé alors?
Ah non, du tout. Du tout, du tout. Voilà, ça c'est le cas médiatisé, mais.
Mais il y en a d'autres, malheureusement.
Mais il y en a d'autres.
Et des fois, on a pire encore.
On a pire.
Voilà, et comme vous cherchez des familles d'accueil, ben voilà,
entre deux, si je peux. Si je peux intervenir dessus, oui, on cherche des familles d'accueil, on cherche des enquêteurs et voilà.
D'accord. Alors, donc on va sur la page Facebook.
Voilà, page Facebook et puis
GIAPA.
Voilà. Groupe d'intervention active de protection animale.
Très bien.
Et on vous attend.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Philippe.
Bonne journée.
Laetitia,
merci.
On va revenir sur notre question qu'on vous pose depuis ce matin, puisqu'on évoquait en première partie de ce rendez-vous animaux, et bien les animaux préhistoriques, et on vous posait la question suivante. Quel animal a été domestiqué en premier par l'homme? D'après vous, quel animal a été donc domestiqué en premier? On a, pour ce résultat, en premier le cheval, Laetitia, à 40%. Ensuite le chien, après le chat, ensuite la chèvre. Donc voilà. Pour nos auditeurs, en tout cas, qui sont connectés sur rmc.fr, c'est le cheval qui a été domestiqué en premier.
Eh ben non.
Avant, j'aurais dit le chat.
Eh ben non. Encore.
Eh ben non. Le chien.
Le chien.
C'était le chien.
Le chien a été le premier animal domestiqué par l'homme. Et le chien, c'est pour ça qu'il a beaucoup évolué avec l'homme. Il aurait été domestiqué entre 11 000 et 16 000 ans. Il y a 11 000 ou 16 000 ans. On a beaucoup de recherches sur le sujet. Et puis, on a toujours des indices dans les fouilles, etc., où on trouve des ossements de chiens. Et selon certaines recherches, ça serait même il y a 16 000 ans que le chien a été domestiqué. Le cheval, 4 500 ans.
Ah oui, beaucoup plus tard.
Et c'est la chèvre qui a été... alors, peut-être aussi la vache, mais on n'en est pas sûr à 100%. Mais en tout cas, peut-être après le chien, c'était la chèvre qui a été domestiqué il y a 9000 ans. Voilà.
Très bien, donc voilà, ça confirme que le chien est vraiment le meilleur ami de l'homme. Hein.
Exactement, depuis 16000 ans quand même.
Depuis longtemps, voilà.
Et c'est pour ça qu'on a toutes ces races, du chihuahua au dog allemand. C'est qu'il y a eu vraiment une sélection faite par l'homme.
Est-ce que vous connaissez, Laetitia, le gros Maru?
Oui.
Alors c'est un gros chat.
Alors, il faut pas lui dire gros parce qu'il va se vexer.
On va en parler. Non, quoi qu'il est, il est au Japon, donc avec un peu de chance, il comprend pas le français, on est sauvé.
Oui, mais s'il fait non de la tête, ça veut dire qu'il va agresser.
Ça sera notre vidéo LOLcat de ce dimanche. Mais avant de se dire au revoir et de vous parler de cette vidéo, on va retrouver notre question répondeur de cette semaine. Je vous rappelle que, évidemment, Laetitia est là chaque dimanche, entre 6h et 8h, mais vous pouvez lui poser votre question quand vous voulez au 3216 touche 3.
Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de vos animaux. Merci de laisser votre message après le bip sonore.
Moi j'appelle parce que ma fille a un beagle. L'autre souci, c'est que lorsque nous arrivons, je pense que c'est parce qu'il est content de nous voir, il nous saute après, il nous grimpe sur les vêtements. Et c'est très désagréable. Et quel comportement devons-nous avoir vis-à-vis du chien? Il faut le repousser, il faut l'ignorer, il faut... Nous sommes désespérés de ce côté-là, mais autrement, il est adorable.
En fait, il faut changer de pantalon, quoi. C'est tout.
C'est le beagle sauteur. Alors, vous imaginez si c'est un dog allemand.
Oh là là, un dog allemand, on est par terre, en fait. Voilà. On se transforme en tapis.
Faut tout de suite s'allonger.
Voilà, c'est ça. Et on attend.
Alors oui, votre beagle, il est très gentil. Et pourquoi il saute, d'ailleurs? Vous le savez? Pourquoi un chien saute pour nous dire bonjour?
Je sais pas, moi je dirais parce qu'il est content, mais à mon avis c'est plus compliqué que ça.
C'est parce qu'il veut atteindre le visage.
Ah oui, pour nous lécher.
Parce que d'abord le visage, vous avez vu des chiots avec des adultes, enfin des chiens adultes, ils vont tout de suite au visage, ils essayent de mordiller un petit peu les babines, de lécher le visage, parce que c'est là où se concentre aussi pas mal de d'odeurs. Donc le chien, quand il saute, il veut justement atteindre notre visage. Donc c'est déjà ça. Et puis c'est vrai que on encourage notre chien, notre chiot, à sauter, parce que quand il est tout petit, qu'il vient nous faire la fête, il nous saute pour atteindre le visage, on s'accroupit, on le caresse, on joue avec lui, donc il se dit c'est super, je vais sauter. Et puis quand il est adulte, on se dit ah ben non, parce qu'alors là mon collant il est tout filé parce qu'il me saute dessus, et puis ça peut être dangereux comme un dog allemand qui nous saute dessus. Donc qu'est-ce qu'il faut faire comme attitude? Alors d'abord il faut dire à votre fille de bien éduquer son chien et surtout de l'éduquer au rappel, c'est-à-dire que quand il commence à sauter sur les visiteurs, de lui dire non, va à ton panier. Ça, c'est déjà la base de l'éducation. Et vous-même, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas l'encourager, c'est-à-dire qu'il faut faire la statue de Pierre. Vous mettez les mains dans les poches, vous ne le regardez pas, vous ne le touchez pas,
vous ne
lui parlez pas. Éventuellement, vous mettez trois quarts.
Ah oui, d'accord. Pas de dos totalement.
Voilà, mais trois quarts.
D'accord.
Et voilà, vous ne voilà, vous restez et vous ne bougez pas. Au bout d'un moment, le chien, il a face à un mur, enfin face à une statue.
Oui, il voit qu'il a pas de réaction.
Voilà. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il dit bon, bah je vais aller dire bonjour à l'autre personne. Donc il ira voir l'autre personne qui fera pareil. Et donc à un moment, il va se calmer.
Il faut bien se préparer là. Attention, il faut bien dire attention, oui. Attention les amis. On va voir le chien. Donc surtout, oui, vous mettez trois quarts et vous l'ignorez.
Faut mettre une pancarte sur la porte d'entrée, voyez.
Voilà, c'est ça.
Et le principe, c'est de lui dire bonjour quand il s'est calmé, le chien.
D'accord. Donc après, il va faire tout le tour des gens. Et puis après, au bout d'un moment, il va se calmer.
Et c'est à ce moment-là où vous allez vous ouvrir, comme on dit, on s'ouvre. Et on va dire au chien.
Récompense ou pas?
Voilà. Et récompense, caresse.
D'accord.
Voilà. Et c'est là où on va appeler le chien pour lui donner les caresses. Mais c'est pas lui qui viendra les chercher. Il faudra bien lui apprendre ça. Et je pense que votre fille doit lui apprendre. Et puis surtout, quand il y a des invités qui viennent et qui sont surpris par ce chien, il faut qu'elle ait ce réflexe. Rex, va au panier, laisse-nous tranquille pour l'instant.
Il faut bien briefer les invités. Hein,
oui.
On l'a bien compris. Laetitia, donc pour terminer ce rendez-vous animo et avant de se dire au revoir, on va parler de notre vidéo LOLCAT de cette semaine. Vous savez que chaque dimanche, on vous sélectionne une petite vidéo qu'on diffuse après sur la page Facebook de Vos Animaux sur RMC. Et ce matin, on a trouvé la vidéo de Maru. Alors Maru, c'est un chat japonais hyper connu. Hein,
oui.
Voilà, c'est une star.
C'est un chat tout rond, tout en rondeur.
Oui, oui, oui. Un peu, bien grassouillé. Enfin, à mon avis,
bêtises.
Il ne doit pas manger que des croquettes. Light, lui, hein. Non,
mais il fait que des bêtises.
Oui, c'est vrai.
Comme rentrer dans un carton qui est trop petit pour lui, ou voilà.
Exactement. Et là, donc il trouve un bol, un énorme bol en fait sur le sol, et il essaie de rentrer dedans. Mais quand on est un gros chat, rentrer dans un bol, c'est pas facile.
Donc il faut avoir du bol.
Voilà, il faut avoir du bol. Donc il essaie, puis finalement il y arrive, mais qu'à moitié. Enfin bref, c'est assez drôle. C'est la vidéo Mixing Bowl de Maru que vous pouvez retrouver, donc dont vous pouvez retrouver le lien sur la page Facebook de Vos Animaux sur RMC. Laetitia, on se retrouve la semaine prochaine et on va parler de ces personnalités, de ces people qui s'investissent auprès des animaux. Hein,
voilà,
dimanche prochain.
Nous aurons avec nous Mylène de Mongeau, Evangélie. Nous aurons aussi Miss France 2012. Enfin voilà, on va vous parler un petit peu de cet engagement de ces personnalités, on va dire, hein, pour la cause animale.
Mais vous-même, si vous nous écoutez et que vous êtes alors moins connu qu'Evangélie, et si vous voulez bien nous faire part de votre implication envers les animaux, parce que vous êtes engagé, bien dites-le nous dès maintenant au 3216 ou animaux@rmc.fr. Ce sera dimanche prochain. Laetitia, à dimanche.
Bon dimanche à tous, je vous embrasse.
Et dans un instant, ce sera Jean-Luc Mourot à mes côtés pour l'automobile. On change d'univers sur RMC dans ce week-end des experts. À tout de suite.
Retrouvez vos animaux en podcast sur rmc.fr.